Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 40. Je vous propose de lire l'ensemble du chapitre. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et dites-lui qu'elle a achevé son temps d'astreinte, que sa faute est payée, qu'elle a déjà reçu du Seigneur un double acquittement. On crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous ensemble la verront. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Quelqu'un dit « Crie !» Et on répond « Que crierai-je ? » Toute chair est de l'herbe, tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le vent du Seigneur passe dessus. Vraiment, le peuple est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force, son bras lui assure la domination, il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Comme un berger, il fera paître son troupeau, de son bras, il rassemblera ses agneaux, il les portera sur son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de la main, fixé les dimensions du ciel avec la paume, jaugé dans une mesure toute la poussière de la terre? Qui a pesé les montagnes au crochet, les collines à la balance? Qui a estimer l'intelligence du Seigneur, qui lui donne des conseils, avec qui a-t-il tenu conseil pour comprendre quelque chose, qui lui a appris le chemin de l'équité, qui lui a appris la connaissance, qui lui a fait connaître comment se conduire intelligemment. Les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles comptent comme la poussière sur une balance. Les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le bûcher et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont comme un rien devant lui. Elles sont moins que néant et chaos. À qui voulez-vous comparer Dieu? Que présenterez-vous qui lui ressemble? Un artisan fond une statue, un orfèvre la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Et celui qui est trop pauvre pour une telle réalisation choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il cherche un artisan habile pour dresser une statue qui ne branle pas trop. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? L'a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris ce qu'est la création de la terre? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il déploie le ciel comme une étoffe légère. Il l'étend comme une tente pour y habiter. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui ramène au chaos les juges de la terre. Ils ne sont même pas plantés, même pas semé, leur tige n'a même pas sorti de racines, qu'ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Une tempête les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est lui qui fait sortir les étoiles au complet, les appelle toutes par leur nom. par son grand pouvoir, par sa force puissante. Il n'y en a pas une qui fasse défaut. Alors pourquoi, dis-tu, Jacob, pourquoi, répètes-tu, Israël, ma destinée est cachée ? Ô Seigneur, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas entendu ? C'est le Seigneur, le Dieu d'éternité, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne s'épuise ni ne se fatigue. Son intelligence est insondable. Il donne la force à celui qui est épuisé. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Même les adolescents s'épuisent, se fatiguent, les jeunes gens finissent par trébucher. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Durant les deux semaines qui viennent de s'achever, la Ligue pour la lecture de la Bible a offert à notre lecture des chapitres du livre d'Ésaïe qui sont parmi les plus beaux et les plus réconfortants de toute la Bible. Ces chapitres s'adressent à un peuple qui a connu le plus grand malheur de son histoire. Il a été envahi par la puissance la plus redoutable de l'époque, Babylone. La capitale, Jérusalem, a été prise après plus d'une année de siège. Le palais du roi est détruit. Le temple est détruit. Toutes les maisons de quelque importance ont brûlé et sont démolies. Des morts partout. Des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants. Les gens influents ont été exécutés ou déportés. Il ne reste sur place que les gens les plus modestes, perdus au milieu des ruines. Le roi, on l'a jugé comme un criminel. On a égorgé ses fils devant lui. On lui a crevé les yeux. On l'a enchaîné comme un esclave pour le mener à Babylone. La mort pour beaucoup. Et pour ceux qui restent, le chagrin, la honte, le désespoir, tout est fini. Et voilà 50 ans que le grand malheur est arrivé. 50 ans dans l'histoire du monde, c'est si peu. Mais 50 ans dans la vie d'un être humain, c'est presque toute une vie. Et c'est sur ce champ de ruines de pierre et de ruines humaines, que se fait entendre la voix du prophète. Consolez. Consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Dites-lui qu'elle a achevé son temps d'astreinte, que sa faute est payée. Dieu va intervenir en faveur de son peuple. Il faut reprendre courage. On rebâtira sur les ruines. Ce message de consolation et d'espérance, il est entouré d'un étrange mystère. Il fait partie du livre d'un prophète qui vivait plus de 150 ans avant. Faut-il penser que Dieu avait donné à Ésaïe, plus de 150 ans à l'avance, un message qui ne s'adressait pas à ses contemporains, mais qui visait, qui était en réserve pour une génération future. Un message qui désigne par son propre nom, plus de 150 ans à l'avance, un empereur de Perse nommé Cyrus, qui va vaincre Babylone et qui va ordonner la reconstruction du temple à Jérusalem. C'est comme si à l'époque de Napoléon III, on nous annonçait l'élection d'Obama, avec son nom, Barack Obama. Incroyable. Mais si ce n'est pas Ésaïe qui a reçu ce message et qui l'a consigné, si ce message a été reçu plus tard, à l'époque de l'exil, peu de temps avant les événements qu'il annonce, alors pourquoi se trouve-t-il dans le livre d'un autre prophète qui vivait 150 ans avant? Et surtout, comment se fait-il qu'un tel prophète, l'un des plus grands prophètes de toute la Bible, comment se fait-il qu'il soit resté anonyme à l'époque de Jérémie, à l'époque d'Ézéchiel? Un prophète tel que celui qui s'exprime dans ces chapitres aurait-il pu rester totalement inconnu? Incroyable. Le mystère reste entier. Et ce mystère qui entoure l'origine de ces paroles leur donne en fait plus de prix, comme si elles venaient directement de Dieu. Et c'est bien lui, d'ailleurs, qui les a inspirées, comme toutes les paroles des prophètes de la Bible. Consolez, consolez mon peuple. Faut-il avoir touché le fond pour entendre ces paroles et pour les recevoir? Dieu attendrait-il que nous ayons touché le fond pour nous les faire entendre? Alors, notre situation, elle est assurément moins grave que celle que je viens de décrire. Pour parler de notre situation générale en France, eh bien, nous sommes dans la situation de gens qui redoutent des malheurs possibles ou même prévisibles. Nous craignons que notre situation se dégrade. Nous craignons pour notre liberté. Et c'est pour elle qu'a eu lieu la manifestation du 11 janvier. Nous craignons pour notre sécurité. L'attentat, les violences en tout genre. Nous craignons, beaucoup craignent pour leur gagne-pain, pour leur subsistance. La quasi-totalité des mouvements sociaux, les taxis, les notaires, les salariés dont l'entreprise est en grande difficulté ou même a déjà fait faillite, les bonnets rouges, etc., sont tous des gens qui risquent de perdre. Et le risque n'est pas illusoire. Et on pourrait évoquer encore bien d'autres craintes et bien d'autres risques, comme le réchauffement climatique, par exemple. Nous craignons des malheurs, des catastrophes, mais pour les Israélites, le malheur, la catastrophe, ce n'est pas un avenir que l'on redoute, c'est le passé et le présent que l'on subit. La catastrophe est arrivée, tout est perdu, et c'est pour eux que Dieu dit « Consolez, consolez mon peuple. » Avant, lorsque le malheur menaçait, lorsque la catastrophe se profilait à l'horizon et qu'on pouvait la considérer comme plus ou moins prévisible, Dieu ne disait pas « consoler ». Il disait plutôt quelque chose comme « menacer, avertissez ». Le message qu'il avait confié à ces deux grands prophètes, Jérémie et Ézéchiel, c'était d'avertir les gens, c'était de leur annoncer que la catastrophe allait arriver, de les appeler à reconnaître leurs fautes, à changer de conduite. Parce que face à l'avenir redouté, les contemporains des deux prophètes, que faisaient-ils? Eh bien, d'un côté, ils nourrissaient de faux espoirs. « Oh non, le malheur n'arrivera pas. Oh non, Dieu ne le permettra pas. » Et d'autre part, ils cherchaient des secours illusoires. Ils attendaient l'aide de l'Égypte, qui pensaient-ils aller les protéger des Babyloniens. Quand Israël allait bien, il s'est désintéressé de Dieu. Il n'a pas besoin de lui. Et puis, quand les choses ont commencé à se gâter, au lieu de revenir à Dieu, ils se sont bercés de faux espoirs et ils ont cherché secours ailleurs. Il fallait qu'ils touchent le fond pour qu'enfin ils écoutent Dieu et qu'ils l'entendent leur parler de consolation. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons avouer que nous avons plus ou moins tendance à oublier Dieu lorsque tout va bien. Et même face au danger, parfois, d'essayer de nous rassurer à bon compte ou penser que nous allons pouvoir nous en sortir d'une façon ou d'une autre. Et lorsque nous considérons le passé, n'est-ce pas souvent lorsque nous touchions le fond, que telle parole de Dieu a pris pour nous tout son sens. Donc je reprends ma question. Faut-il que nous touchions le fond pour que cette parole nous atteigne ? C'est peut-être le cas pour l'un ou l'autre d'entre nous ce matin. Ce que tu redoutais est arrivé. Tu es désemparé. Tu n'as plus de ressort, plus d'espoir. Écoute la parole du Seigneur. Cette parole est pour toi. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Il est frappant que Dieu, voulant consoler son peuple, lance en fait cet appel « Consolez, consolez mon peuple », comme s'il voulait ne pas être seul à sentir toute la détresse de son peuple, comme s'il lui fallait faire ressentir à d'autres ce besoin impérieux de consolation, comme si tout le monde devait comprendre qu'il faut consoler Jérusalem. C'est ainsi que Dieu veut te consoler. Cette parole de consolation qui est tout exprès adressée à celui qui a touché le fond, nous pouvons en fait la recevoir, quelle que soit notre situation, pour autant que nous nous souvenions bien que nous avons toujours besoin de Dieu, que nous allions bien, que nous allions mal, que nous allions plus ou moins bien, et pour autant que nous souvenions aussi qu'il peut nous arriver de toucher le fond. Cette parole de consolation, elle nous concerne d'autant plus et d'autant mieux qu'elle ne se limite pas à dire qu'il faut consoler quelqu'un qui a besoin de l'être, mais qu'elle expose de très forts motifs à cette consolation. Le motif le plus fondamental qui est largement développé dans le message du prophète, dans ce chapitre 40 et dans ceux qui suivent, c'est que Dieu maîtrise parfaitement la situation. Cette maîtrise de Dieu sur la situation, elle s'exprime par des questions. Qui a mesuré les océans dans le creux de la main ? Qui a évalué à l'empant, comme ça, en mesurant le ciel ? Qui a pesé au quart de litre le sol de la terre, ou mesuré au quart de litre le sol de la terre ? Pesé les montagnes à la romaine, à la balance romaine, les collines à la balance ? Ces questions, ce ne sont pas de vraies questions. Qui d'autre que Dieu peut avoir créé le monde ? Mais les questions, elles donnent beaucoup plus de force à l'affirmation. Elles sonnent comme un défi auquel personne d'autre que Dieu ne peut répondre. Et puis, elles sonnent aussi comme un rappel. Comment ? Tu as oublié que Dieu était le Créateur ? Tu as oublié tout ce que cela implique ? Et les questions se poursuivent. Qui a évalué l'intelligence du Seigneur ? Lui a proposé un conseiller ? Avec qui a-t-il pris conseil pour qu'on lui fasse comprendre, pour qu'on lui enseigne le droit, qu'on lui enseigne la connaissance, pour qu'on lui fasse comprendre comment se conduire intelligemment ? Ces questions ne vous rappellent-elles rien ? C'est par de telles questions qu'à la fin du livre de Job, Dieu répond à l'inquiétude, à la détresse, aux plaintes de son serviteur. Et c'est par de telles questions qui l'interpelle et en fait le rassure. Face à toutes nos craintes, à toutes nos déceptions, la chose la plus importante, l'une des choses les plus importantes que nous devons nous rappeler, une chose à laquelle nous pouvons et devons nous arrimer, c'est que Dieu gère. Cette affirmation, certes, n'est pas toujours facile de la poser par rapport à un passé qui nous a déçus, déstabilisés, peut-être même démolis, par rapport à un présent qui nous pèse ou un avenir qui nous inquiète. C'est une démarche de foi. Elle est comme une ancre qui est accrochée, non pas dans le sol qui est sous nos pieds et qui se dérobe, mais qui est accrochée dans l'invisible. Au-delà du voile, nous dit l'Épître aux Hébreux, car c'est dans l'invisible que se trouve Dieu et toute notre sécurité. C'est donc une démarche de foi, parfois contre l'évidence, comme cela est rappelé pour Abraham, il a espéré contre toute espérance, mais ce n'est pas pour autant un saut dans le vide, ni même un saut à l'élastique. C'est un saut dans les bras de Dieu. Et le prophète, dans ces chapitres, ne se contente pas d'affirmer que Dieu a la situation bien en main. Il en donne par avance des preuves. Il annonce ce que Dieu va faire concrètement pour son peuple. La conscience est tournée vers l'avenir. C'est une route qui s'ouvre et qui permettra de franchir les montagnes et d'enjamber les vallées. Ce que Dieu promet à son peuple dévasté, il n'est pas évident que cela nous concerne. Cyrus est mort depuis longtemps. Le temple qui a été reconstruit avec son appui, il a été de nouveau démoli. Et que nous apporterait d'ailleurs la construction d'un temple. Et puis nous ne sommes pas Israël. Rien ne nous dit que Dieu veuille garantir telle nation comme la nôtre ou comme une autre de la catastrophe. Nous voyons trop de chrétiens persécutés, chassés, exterminés, pour penser que Dieu va nous garantir collectivement ou personnellement de tous les malheurs. Les promesses qui sont contenues dans ces chapitres, elles nous concernent, je pense qu'on peut le dire, de trois manières différentes. D'abord, la perspective du prophète ne s'arrête pas à l'avenir immédiat, au retour des exilés, à la reconstruction du temple de Jérusalem. Le prophète, inspiré par Dieu, voit plus loin. Et nous le comprenons très bien lorsqu'il nous parle de cette voix qui crie dans le désert, lorsqu'il nous parle de Dieu comme un berger qui prend soin de ses agneaux, qui les prend dans ses bras. Nous le comprenons très bien lorsqu'au chapitre 53, il parle du serviteur qui est frappé pour les péchés de son peuple, qui porte les péchés de beaucoup, qui intercède pour les coupables. Nous comprenons bien que c'est Jésus qui est annoncé. Et nous y voyons plus clair que les auditeurs du prophète, nous y voyons plus clair que le prophète lui-même, parce que Jésus est venu. Nous savons ce qu'il a dit, nous savons ce qu'il a fait, et nous comprenons que c'est par lui, par Jésus, que la consolation divine nous atteint. Tout cela, c'est très directement que nous le comprenons et que nous pouvons nous l'approprier. C'est Jésus qui est l'objet de notre foi et de notre espérance. C'est lui qui nous console et qui nous fortifie. En second lieu, nous pouvons retenir du message du prophète ce que j'ai déjà relevé plusieurs fois, c'est que Dieu gère la situation. Dieu le fait tout au long de l'histoire et ne doutons pas qu'il le fasse encore aujourd'hui. Alors, la façon dont Dieu gère l'histoire du monde n'est pas toujours facile à déchiffrer. Et probablement, nous nous égarons et nous nous compliquons la vie si nous pensons devoir chercher à interpréter tout ce qui se passe dans le monde et à prévoir l'avenir. Mais il y a deux choses que nous pouvons retenir. C'est que Dieu a un plan pour le monde et que l'Église est au cœur de la stratégie de la géopolitique de Dieu pour faire connaître l'Évangile. Et cela correspond exactement à l'ordre de mission qu'il a donné à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Faites des disciples parmi toutes les nations. C'est ainsi que s'exerce actuellement dans le monde le règne de Dieu, les pleins pouvoirs que Jésus a reçus de son Père. Et c'est pour la réalisation de ce plan, l'annonce de l'Évangile, que nous pouvons prier et agir. Et enfin, nous pouvons percevoir que la perspective qui est ouverte par le prophète et qui va au-delà du retour d'exil, de la reconstruction du temple, s'étend aussi au-delà de la première venue du Messie, de la venue de Jésus, pour offrir à notre foi la vision d'un avenir éternel que nous attendons et qui nourrit notre espérance. Consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Que chacun de nous ce matin puisse recevoir la consolation que Dieu veut nous accorder par notre Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Qu'il fasse aussi de nous, de chacun de nous, des agents de sa consolation. Car c'est par nous aussi que Dieu veut consoler. Consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Amen.